au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne-Françoise Dumont.
En 2006, nous avons déjà eu l'occasion de vous le rappeler, marque le 400e anniversaire de la naissance de Pierre Corneille. Et c'est avec grand bonheur qu'aujourd'hui encore, nous évoquons la mémoire de Pierre et de son frère Thomas. Pierre fut célèbre de son vivant et le resta. Thomas le fut tout autant, si ce n'est plus, mais ne le resta pas. Fils d'une famille de 6 enfants de la petite bourgeoisie, Pierre et Thomas sont nés à Rouen. L'aîné en 1606, le cadet en 1625, 19 ans plus tard. Tous deux firent leurs études au collège des Jésuites de Rouen, puis tous deux devinrent avocats, Pierre à 18 ans, Thomas, moins précoce, à 24 ans. Pierre Corneille s'essaya au théâtre dès 1629. Il écrit une comédie née du sentiment amoureux que lui inspira une jeune fille de Rouen, Catherine, dont nous tairons le nom de famille pour ne pas la compromettre. Mélite ou les fausses lettres. Le succès, écrit Corneille, fut surprenant. Il égala ce qui s'était fait de plus beau jusqu'alors. Arrivé à sa 30e année, Pierre Corneille s'élève brusquement à la gloire. En 1636, le Cid remporte un succès inouï. Le public, qui afflue aux représentations, apprend par cœur des tirades entières. Des traductions paraissent dans toutes les langues de l'Europe, dit-on, hormis l'esclavone et la turque. Mais bientôt, au milieu de l'engouement général pour le nouveau chef-d'œuvre, des voix discordantes ne tardent pas à se faire entendre. Les libelles pleuvent. Scudéry place la querelle sur un plan théorique et s'évertue à démontrer que le sujet de la pièce ne vaut rien, qu'il choque les règles, que les beautés en sont empruntées. Guès de Balzac, partisan enthousiaste de Corneille, proteste dans une lettre publique à Scudéry, qui réclame alors l'arbitrage de l'Académie. Celle-ci est embarrassée, mais Richelieu la presse de donner son avis. La pièce, au dire des juges qui s'efforçaient d'être courtois, avait manqué aux règles et à la bienséance, mais il s'en dégageait un charme inexplicable. La querelle s'étant envenimée, Richelieu décida d'y mettre un terme. En dépit de l'envie, le Cid avait continué sa brillante carrière. La querelle du Cid avait irrité Corneille. Il retourna à Rouen et demeura pendant 3 ans éloigné du théâtre. Il méditait pourtant de vaincre un jour l'opposition mesquine de ses doctes, qui avaient refusé de s'associer à l'enthousiasme du grand public. « Il ne parle que de règles !» écrivait Chapelain à Guès de Balzac. Sa tragédie Horace, représentée en 1640, a été écrite avec le dessein de désarmer les critiques par l'observation stricte des 3 unités. Cinna fut joué la même année qu'Horace et obtint un succès prolongé. La gloire de l'auteur, désormais incontestée, s'imposa même à ses ennemis. Peu de temps après avoir fait jouer Cinna, Corneille épousait Marie de Lampérière. Le ménage s'installa à Rouen, où Corneille vécut, dans une atmosphère de tendresse et de piété. Cependant, il prenait parfois le coche pour Paris, où il fréquenta l'hôtel de Rambouillet. Un jour, en 1642, il y lut une tragédie nouvelle, Polyeucte. La pièce surprit, reçut un accueil assez froid, mais le parterre se montra plus sensible à la grandeur que la célèbre compagnie. Polyeucte eut un énorme succès à l'hôtel de Bourgogne. Le succès l'accompagna jusqu'en 1644 avec Rodogune. Corneille est académicien en 1647, mais aucune pièce de cette période n'égale le Cid ou Polyeucte. En 1652, Pertrarit fut un désastre et avec une tristesse hautaine, Corneille se décide alors à sonner la retraite, dit-il. Il se consacre à son adaptation en vers de l'Imitation de Jésus-Christ. À la mort de leur père, en 1639, Thomas n'avait que 14 ans. Pierre devient son tuteur, le conseil et le guide tout au long de ses études. Il l'influence énormément. Les deux frères sont inséparables. En 1650, Thomas épouse même la sœur de la femme de Pierre, Marguerite de Lampérière. De fait, les deux hommes restent très proches. Ils vivent dans le même logement, ils ont le même nombre d'enfants, s'épanouissent dans une atmosphère sereine et heureuse. L'ardeur littéraire de Pierre ne pouvait que se développer aussi chez Thomas. Thomas Corneille débute au théâtre en 1647, il a 22 ans, avec des comédies inspirées des auteurs espagnols. Jouées à l'hôtel de Bourgogne, ces comédies remportent un grand succès. À partir de 1653, Thomas Corneille va se tourner vers de nouveaux genres théâtraux, comédie pastorale, tragicomédie. Thomas a une grande maîtrise de la langue qui le rend populaire auprès des précieuses dont il fréquente les salons. Mais c'est avant tout dans la tragédie que veut se lancer le jeune Corneille. Or, son frère Pierre est malade et il ne travaille plus pour le théâtre depuis 1653. Malgré l'affliction que ressent alors Thomas, il se rend compte qu'il y a un vide littéraire à combler dans la création de tragédies et il décide de se lancer dans ce genre prestigieux. C'est ainsi que naît Timocrate. La pièce est représentée sur la scène du Marais. Le roi y assiste. Thomas lui est présenté. Il obtient la protection du roi ainsi que celle du duc de Guise et de Fouquet. Cette pièce est interprétée pendant 6 mois à salle comble, soit 80 représentations consécutives, c'est-à-dire mieux que son frère, mieux que Racine ou Molière. Le succès ne le quittera plus jusqu'en 1669. En novembre 1669, l'échec rencontré par la mort d'Annibal est le signe d'un changement prochain dans le goût du public. Le changement intervient dans la vie même des deux frères, qui quittent Rouen pour s'installer à Paris dès 1662. De 1673 jusqu'en 1681, ils vivent dans le même logement rue de Cléry. Puis ils se séparent. Pierre s'installe rue d'Argenteuil, Thomas rue du Clos-Georgeot. Sur la scène théâtrale, le genre cornélien ne fait plus recette. C'est pourquoi Thomas se tourne vers Racine, alors très acclamé. Mais en 1673, Molière meurt et laisse une troupe orpheline. Pierre a alors 67 ans, Thomas 48. La troupe a besoin d'auteur, Thomas Corneille est choisi. La troupe de Guénégaud est ainsi formée, ayant également en son sein les meilleurs acteurs du Marais. Dans la même période, Racine échoue avec Phèdre, ce qui laisse un champ ouvert pour Thomas Corneille. Il revient un temps à la tragédie, collabore avec Lully. L'année 1680 marque la fin de la carrière de Thomas Corneille. Même s'il continue à écrire, il ne compte plus parmi les grands auteurs du théâtre français. Son théâtre n'étant plus sollicité, Thomas Corneille va se tourner vers d'autres activités. Dès 1677, il collabore au Mercure Galant, gazette créée en 1672. À la fin de chaque mois, paraît un numéro de plus de 200 pages qui rencontre des principaux événements de la ville et de la cour. Cette gazette assure une rente à Thomas Corneille qui en est pour moitié propriétaire. 1684 est une année tragique pour Thomas, son frère Pierre meurt. Élu au fauteuil 14 en 1647, Pierre Corneille était le doyen de l'Académie lorsqu'il mourut le 1er octobre 1684. Thomas en est très affligé. Mais Pierre Corneille disparu, c'est un siège de vide à l'Académie française. Il est donc naturel que ce soit Thomas qui prenne cette place. Il est ainsi élu à l'unanimité le 2 janvier 1685 à ce même fauteuil 14. Monsieur de Corneille, ayant été élu par l'Académie française à la place de feu Monsieur de Corneille, son frère, et à quelques jours de là, Monsieur de Bergeret, secrétaire du cabinet, premier commis de Monsieur de Croissy, ministre et secrétaire d'État, ayant aussi été élu à la place de Monsieur de Cordemois, ils vinrent tous deux prendre leur séance le 2 janvier 1685 et firent leurs remerciements à la compagnie, chacun selon le rang de leur réception. Ce fut donc Racine qui fit l'éloge de Pierre Corneille en même temps qu'il recevait Thomas. Thomas ne pouvant décemment faire l'éloge de son propre frère. Discours prononcé à l'Académie française à la réception de messieurs de Corneille et de Bergeret le 2 janvier 1685.
Messieurs, il n'est pas besoin de dire ici combien l'Académie a été sensible aux deux pertes considérables qu'elle a faites presque en même temps et dont elle serait inconsolable si, par le choix qu'elle a fait de vous, elle ne les voyait aujourd'hui heureusement réparées. Elle a regardé la mort de M. de Corneille comme un des plus rudes coups qu'il a pu frapper. Car bien que depuis un an, une longue maladie nous eût privés de sa présence, et que nous eussions perdu en quelque sorte l'espérance de le revoir jamais dans nos assemblées, toutefois, il vivait. Et l'Académie, dont il était le doyen, avait au moins la consolation de voir dans la liste où sont les noms de tous ceux qui la composent, de voir, dis-je, immédiatement, au-dessous du nom sacré de son auguste protecteur, le fameux nom de Corneille. Et qui d'entre nous ne s'applaudissait pas en lui-même et ne ressentait pas un secret plaisir d'avoir pour confrère un homme de ce mérite? Vous, monsieur, qui non seulement étiez son frère, mais qui avez couru longtemps une même carrière avec lui, vous savez les obligations que lui a notre poésie. Vous savez en quel état se trouvait la scène française lorsqu'il commença à travailler. Quel désordre, quelle irrégularité, nul goût, nulle connaissance des véritables beautés du théâtre, les auteurs aussi ignorants que les spectateurs, la plupart des sujets extravagants et dénués de vraisemblance, point de mœurs, point de caractère, la diction encore plus vicieuse que l'action et dont les pointes et de misérables jeux de mots faisaient le principal ornement. En un mot, toutes les règles de l'art, celles même de l'honnêteté et de la bienséance, partout violées. Dans cette enfance, ou pour mieux dire, dans ce chaos du poème dramatique parmi nous, votre illustre frère, après avoir quelque temps cherché le bon chemin et lutté, si j'ose ainsi dire, contre le mauvais goût de son siècle, enfin inspiré d'un génie extraordinaire et aidé de la lecture des anciens, fit voir sur la scène la raison. Mais la raison, accompagnée de toute la pompe, de tous les ornements dont notre langue est capable, accorda heureusement la vraisemblance et le merveilleux, et laissa bien derrière lui tout ce qu'il avait de rivaux dont la plupart désespérant de l'atteindre et n'osant plus entreprendre de lui disputer le prix, se bornèrent à combattre la voie publique déclarée pour lui et essayèrent en vain par leurs discours et par leurs frivoles critiques de rabaisser un mérite qu'il ne pouvait égaler. La scène retentit encore des acclamations qu'excitèrent à leur naissance le Cid, Horace, Cinna, Pompée, tous ces chefs-d'œuvre représentés depuis sur tant de théâtres, traduits en tant de langues, et qui vivront à jamais dans la bouche des hommes. À dire le vrai, où trouvera-t-on un poète qui ait possédé à la fois tant de grands talents, tant d'excellentes parties, l'art, la force, le jugement, l'esprit? Quelle noblesse, quelle économie dans les sujets, quelle véhémence dans les passions, quelle gravité dans les sentiments, quelle dignité et en même temps quelle prodigieuse variété dans tous les caractères. Combien de rois, de princes, de héros, de toutes nations nous a-t-il représentés toujours tels qu'ils doivent être, toujours uniformes avec eux-mêmes, et jamais ne se ressemblant les uns aux autres? Parmi tout cela, une magnificence d'expression, proportionnée au maître du monde qu'il fait souvent parler, capable néanmoins de s'abaisser quand il veut et de descendre jusqu'aux plus simples naïvetés du comique, où il est encore inimitable. Enfin, ce qui lui est surtout particulier, une certaine force, une certaine élévation qui surprend, qui enlève, et si on lui en peut reprocher quelques-uns plus estimables que les vertus des autres. Personnage véritablement né pour la gloire de son pays, comparable, je ne dis pas à tout ce que l'ancienne Rome a eu d'excellent tragique, puisqu'elle confesse elle-même qu'en ce genre, elle n'a pas été fort heureuse, mais aux Échilles, aux Sophocles, aux Euripides, dont la fameuse Athènes ne s'honore pas moins que des Thémistocles, des Périclès, des Alcibiades, qui vivaient en même temps qu'eux. Oui, monsieur, que l'ignorance rabaisse tant qu'elle voudra l'éloquence et la poésie, et traite les habiles écrivains de gens inutiles dans les États, nous ne craindrons point de le dire à l'avantage des lettres et de ce corps fameux dont vous faites maintenant partie. Du moment que les esprits sublimes, passant de bien loin les bornes communes, se distinguent, s'immortalisent par des chefs-d'œuvre comme ceux de monsieur votre frère, quelque étrange inégalité que durant leur vie la fortune mette entre eux et les plus grands héros, après leur mort, cette différence cesse. La postérité qui se plaît, qui s'instruit dans les ouvrages qu'ils lui ont laissés, ne fait point de difficulté de les égaler à tout ce qu'il y a de plus considérable parmi les hommes, fait marcher de pair l'excellent poète et le grand capitaine. Le même siècle qui se glorifie aujourd'hui d'avoir produit Auguste ne se glorifie guère moins d'avoir produit Horace et Virgile. Ainsi, lorsque dans les âges suivants, on parlera avec étonnement des victoires prodigieuses et de toutes les grandes choses qui rendront notre siècle l'admiration de tous les siècles à venir, Corneille n'en doutons point. Corneille tiendra sa place parmi toutes ces merveilles. La France se souviendra avec plaisir que sous le règne du plus grand de ses rois a fleuri le plus célèbre de ses poètes. On croira même ajouter quelque chose à la gloire de notre auguste monarque lorsqu'on dira qu'il a estimé, qu'il a honoré de ses bienfaits cet excellent génie. Que même 2 jours avant sa mort, et lorsqu'il ne lui restait plus qu'un rayon de connaissance, il lui envoya encore des marques de sa libéralité, et qu'enfin les dernières paroles de Corneille ont été des remerciements pour Louis le Grand. Voilà, monsieur, comment la postérité parlera de votre illustre frère. Voilà une partie des excellentes qualités qui l'ont fait connaître à toute l'Europe. Il en avait d'autres qui, bien que moins éclatantes aux yeux du public, ne sont peut-être pas moins dignes de nos louanges. Je veux dire, homme de probité, de piété, bon père de famille, bon parent, bon ami. Vous le savez, vous qui avez toujours été unis avec lui d'une amitié qu'aucun intérêt, non pas même aucune émulation pour la gloire, n'a pu altérer. Mais ce qui nous touche de plus près, c'est qu'il était encore un très bon académicien. Il aimait, il cultivait nos exercices. Il y apportait surtout cet esprit de douceur, d'égalité, de déférence même, si nécessaire pour entretenir l'union dans les compagnies. L'a-t-on jamais vu se préférer à aucun de ses confrères? L'a-t-on jamais vu vouloir tirer ici aucun avantage des applaudissements qu'il recevait dans le public? Au contraire, après avoir paru en maître, et pour ainsi dire régné sur la scène, il venait, disciple docile, chercher à s'instruire dans nos assemblées, laissait, pour me servir de ses propres termes, laissait ses lauriers à la porte de l'académie, toujours prêt à soumettre son opinion à l'avis d'autrui, et de tous, tant que nous sommes le plus modestes à parler, à prononcer, je dis même, sur des matières de poésie. Vous auriez pu bien mieux que moi, monsieur, lui rendre ici les justes honneurs qu'il mérite, si vous n'eussiez peut-être appréhendé avec raison qu'en faisant l'éloge d'un frère avec qui vous avez d'ailleurs tant de conformité, il ne sembla que vous faisiez votre propre éloge. C'est cette conformité que nous avons tous eu en vue lorsque, tôt d'une voix, nous vous avons appelé pour remplir sa place, persuadé que nous sommes, que nous retrouverons en vous non seulement son nom, son même esprit, son même enthousiasme, mais encore sa même modestie, sa même vertu, son même zèle pour l'Académie. Je m'aperçois qu'en parlant de modestie, de vertu et des autres qualités propres pour l'Académie, tout le monde songe ici avec douleur à l'autre perte que nous avons faite, je veux dire à la mort du savant monsieur de Cordemois, qui, avec tant d'autres talents, possédait au souverain degré toutes les parties d'un véritable académicien, sage, exact, laborieux, et qui, si la mort ne l'eût point ravi au milieu de son travail, allait peut-être porter l'histoire aussi loin que monsieur de Corneille a porté la tragédie. Mais après tout ce que vous avez dit sur son sujet, vous, monsieur, qui, par l'éloquent discours que vous venez de faire, vous êtes montré si digne de lui succéder, je n'ai garde de vouloir entreprendre un éloge qui, sans rien ajouter à sa louange, ne ferait qu'affaiblir l'idée que vous avez donnée de son mérite. Nous avons perdu en lui un homme qui, après avoir donné au barreau une partie de sa vie, s'était depuis appliqué tout entier à l'étude de notre ancienne histoire. Nous lui avons choisi pour successeur un homme qui, après avoir été assez longtemps l'organe d'un parlement célèbre, a été appelé à un des plus importants emplois de l'État et qui, avec une connaissance exacte et de l'histoire et de tous les bons livres, nous apporte encore quelque chose de bien plus utile et de bien plus considérable pour nous, je veux dire la connaissance parfaite de la merveilleuse histoire de notre protecteur.
Thomas Corneille fut un académicien modèle. Il prit une part active aux travaux du dictionnaire de l'Académie. Ce fut un passionné de la langue. Il avait publié, avant d'être académicien, une édition critique des remarques de Vaugelas et fut chargé, nous l'avons évoqué dans une précédente émission par l'Académie, de la rédaction d'un dictionnaire traitant de tous les termes de science et d'art, et cela pour faire pièce au dictionnaire universel d'Antoine Furtière. C'est ainsi que parut, le 11 septembre 1694, le dictionnaire des termes d'art et des sciences en supplément au dictionnaire de l'Académie. Nous quittons à regret ces deux frères aussi attachants l'un que l'autre, même si un seul eut droit à la postérité. Voltaire disait « Le cadet n'avait pas la force et la profondeur du génie de l'aîné, mais il parlait sa langue avec plus de pureté, quoique avec plus de faiblesse. C'était un homme d'un très grand mérite et d'une vaste littérature. » Et si vous exceptez Racine, auquel il ne faut comparer personne, il était le seul de son temps qui fut digne d'être le premier au-dessous de son frère. »